soir, ouverture ce mercredi au Parlement de la session ordinaire de mars. Cette session s'ouvre dans un contexte de crise politique où l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas encore connu un début d'exécution. Aussi, les deux chambres du Parlement et toutes les autres institutions à mandat électif sont déjà hors mandat. Cela à cause de la non-tenue des élections dans les délais. Quelle analyse faire de cette session? C'est la question du débat et nous en parlons avec Laurent Batoumona, il est député national de l'opposition. Il est président du parti Mouvement de solidarité pour le changement MSC et président de la plateforme Front du Peuple, membre du Rassemblement. Bonsoir honorable Laurent Batoumona.
Bonsoir monsieur le journaliste.
Patrick Thierry-André Kakwatangouza, député national de la majorité présidentielle, il est président du parti Mouvement des réformateurs libéraux, MRL en sigle. Bonsoir, honorable Patrick Thierry-André Kakwatangouza.
Bonsoir, monsieur Guy Maté.
Et professeur Maïndo, Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir, professeur Alphonse Maïndo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ouverture ce mercredi de la session parlementaire au Parlement. Le président de la Chambre basse salue l'enrôlement de la CENI, par la CENI de plus de 20 millions d'électeurs et affirme que les élections sont donc irréversibles. Dans son discours, Obeminaku a dressé un bilan positif du travail abattu par les élus du peuple au cours de cette législature 2011-2016. Il annonce cependant que cette session ordinaire va prioritairement se pencher sur le vote du budget 2017, l'investiture du gouvernement, mais aussi les votes de toutes les lois relatives à l'organisation des élections dans les délais convenus. On écoute le président de l'Assemblée nationale dans cet extrait proposé par Michel Kifinangoy.
La session actuelle sera marquée par l'avènement annoncé d'un nouveau gouvernement. Cette session sera une session vouée aux enjeux électoraux. Je saisis cette opportunité pour nous convier à nous préparer, chers collègues, à affronter de nouveau les méandres du suffrage universel. Invitation nous est adressée de nous atteler à faire adopter en toute diligence toutes les lois ou révision des lois y relatives. Nous pensons que le gouvernement devrait, au plus tard le 10 avril, déposer en l'état les projets de loi liés aux élections, hormis bien évidemment celui relatif à la détermination du quota des circonscriptions électorales, parce qu'elle est tributaire de la clôture de l'enrôlement. Le gouvernement devra également veiller au dépôt urgent d'un projet de loi organique en vue de l'institutionnalisation du Conseil national de suivi de l'accord.
Au Sénat, le président Léo Kyungo Adondo, lors de son discours d'ouverture de la session de mars, a déploré la dégradation de la situation sociale et de la population. Il s'est dit inquiet par la situation politique, socio-économique et sécuritaire, critique et préoccupante que la RDC traverse actuellement. Michel Kifitangoy pour les détails.
Saluant la mémoire du sénateur Joseph Kongolo et de l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi, le président du Sénat a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre l'accord de la CENCO, dont il donne ici les grandes lignes. Léon Kyungo Adondo.
Cet accord politique a porté à notre pays les principaux acquis suivants. L'engagement renouvelé de la classe politique en est procédé ni à la révision ni au changement de la Constitution. Le maintien en fonction du président de la République en exercice et l'engagement renouvelé de celui-ci à ne pas briguer un troisième mandat, le maintien en fonction de toutes les autres institutions en mandat électif.
La situation sécuritaire et socio-économique jugée précaire n'a pas laissé indifférent le président du Sénat.
Comme vous le constatez, la situation sociale du peuple a atteint des limites insupportables. On constate la montée vertigineuse de l'inflation. Celle-ci a engendré l'emballement de prix et la détérioration du franc congolais. Le problème est donc dans la gestion de l'économie.
Léon Kyungo Adondo a donc lancé un message de paix et de patience à la population en attendant la tenue des élections à la fin de cette année conformément à l'accord du 31 décembre 2016.
Merci Michel Kifindangoy. Laurent Batumona, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président du parti Mouvement de solidarité pour le changement MSC et président de la plateforme Front du Peuple, membre du Rassemblement. D'abord, comment vous avez jugé l'ambiance aujourd'hui au Parlement, à l'Assemblée nationale?
Je crois que l'ambiance, ce sont des retrouvailles. Vous savez que les députés reviennent des vacances, il y a d'autres qui ne sont pas encore revenus. Et ces retrouvailles ont permis que nous puissions nous saluer de vive voix et surtout écouter les discours du président de l'Assemblée nationale.
Une session qui s'ouvre sur fond de crise politique, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est toujours pas appliqué. Cette question va certainement s'inviter au débat à l'Assemblée nationale.
Exactement, c'est une crise profonde que nous sommes en train de traverser, que nous avons dû éviter si la bonne volonté des uns et des autres était mise sur place pour que nous puissions arriver à des solutions rationnelles et logiques.
Et les négociations sur l'arrangement particulier n'évoluent toujours pas. Et avez-vous aujourd'hui, en tant que député national, la capacité, n'est-ce pas, de redynamiser ces négociations?
Monsieur le journaliste, ce n'est pas du nouveau. Vous savez qu'ils sont à la base du blocage de ces processus de négociation directe. Je pense que je viens d'apprendre cet après-midi que les travaux vont reprendre demain. Et le président de l'Assemblée l'a aussi annoncé. Certainement, ça sera un dernier round pour que nous puissions satisfaire, comment dirais-je, la volonté du peuple congolais de pouvoir relancer, si vous le voulez bien, les éléments qui vont nous permettre à ce que nous puissions organiser des élections crédibles et transparentes.
Honorable Batumona, c'est une première dans ces pays. Hein. L'Assemblée nationale siège hors mandat. Vous êtes hors mandat depuis le 17 février dernier. Cela ne va-t-il pas réduire votre marge de manœuvre quant à l'accomplissement de votre mission? Vous allez voter les lois, vous allez contrôler la gestion de certaines institutions, notamment les gouvernements. Mais avec quel pouvoir?
Croyez-moi, je ne suis pas fier de siéger durant ces mandats. Parce que nous aurons dû participer à la compétition électorale, mais par la volonté de toute une classe politique, nous ne sommes pas arrivés. Et nous pensons que le peuple, il a les droits de pouvoir nous pousser davantage pour qu'il y ait des élections. Et ces mandats ici, à mon avis, ça ne serait pas un mandat qui permettrait que nous puissions arriver à négocier des lois de toutes les autres lois ordinaires, mais que ce soit surtout des lois qui vont s'engager sur le processus électoral.
Le peuple doit vous pousser pour qu'il y ait des élections cette année. Est-ce que, même si le peuple vous pousse, vous pensez que vous allez vous conformer à la volonté du peuple quand on sait que vous êtes souvent, les députés nationaux, les parlementaires sont souvent, n'est-ce pas, emportés par les questions qui touchent à la politique et au détriment, n'est-ce pas, des problèmes et qui sont exprimés par la masse?
La pression populaire a toujours payé dans ces pays. Et nous avons vu des cas avant le 20 décembre, entre les mois d'octobre et novembre, comment est-ce que les rassemblements ont soulevé la masse populaire pour que nous puissions braver ceux qui ne voulaient pas que les élections puissent s'organiser. Donc nous pensons que la volonté populaire peut faire bouger les lignes dans ces pays.
Vous dites que vous n'êtes pas fier de siéger parce que vous savez que vous êtes hors mandat. Et alors, qu'est-ce que vous conseillerez, n'est-ce pas, à vos collègues députés?
J'ai dit que je ne suis pas fier de siéger, mais je vais siéger parce qu'il y a des lois essentielles qui seront votées. Donc, je suis obligé de prendre des pas pour manifester la volonté du peuple qui m'a donné son suffrage.
Patrick Thierry, André Kapouata-Ngouza, vous êtes député national de la majorité présidentielle, vous êtes président du parti Mouvement des réformateurs libéraux, MRL en sigle. Comment vous avez jugé l'ambiance aujourd'hui à l'Assemblée nationale?
Vous devez savoir que ça s'est bien passé. C'était l'ambiance de retrouvailles, comme l'a dit le collègue. Nous venons des vacances parlementaires. Chacun a pu tâter ou palper du doigt la réalité de la base, comme l'habitude d'appeler le peuple le patron. Nous avons été en contact avec notre patron, à qui on a rendu compte des travaux de la session passée, et on a pu prendre des doléances pour la session actuelle.
C'est une session de tous les enjeux, comme on le dit, les arriérés législatifs, notamment les projets de loi relatifs au budget, la loi sur la répartition des sièges. Les défis qui attendent les gouvernements sont considérables, honorable Kakwata. Vous êtes autorité budgétaire. Serez-vous en mesure de doter les pays d'un budget qui pourra permettre à ces gouvernements de relever justement tous ces défis?
En soi, c'est pas un secret. Nous savons que là, il y a eu chute de matières premières. Maintenant, là, nous sentons que les prix commencent à reprendre. La situation s'améliore de petit à petit. Alors, nous croyons que, soyons optimistes, que nous allons doter le budget tel qu'il se doit.
C'est-à-dire ?
Cela veut dire que nous allons donner un budget au moins raisonnable et considérable par rapport à la hausse ou à la montée des prix de matières premières.
À votre avis, quel budget il faut pour ces pays avec tout ce qu'il y a comme défi à relever, notamment les élections au mois de décembre prochain?
En soi, ce n'est pas moi qui peux déterminer à quelle hauteur, parce que le budget nous est donné par celui qui gère du quotidien, c'est le gouvernement. Mais nous, nous essayons juste de l'adapter et de voir comment mobiliser les recettes à ce que ça puisse être une réalité. Parce que jusqu'à ce jour, le budget que nous avons, ce n'est pas un budget qui représente la réalité de la République démocratique du Congo. Mais nous nous battons, nous nous efforçons pour que nous puissions avoir au moins un budget raisonnable.
La loi sur la répartition des sièges est fonction, n'est-ce pas, de la mise en place du fichier électoral révisé. Or, selon la CENI, ce fichier ne sera disponible que vers le mois de juin. Peut-on espérer que le Parlement va permettre à la CENI d'obtenir cette loi à l'issue de cette session?
En soi, la CENI est en train de faire son travail. Nous ne pouvons pas bousculer les choses pour qu'on ne puisse pas demain accuser que c'était des histoires faites à la va-vite. Mais c'est mieux qu'on nous puissions leur laisser et faire confiance, qu'on nous donne une loi, qu'on nous donne les chiffres exacts d'enrôlés qui permettra que nous puissions dégager une bonne loi sur la répartition de sièges. Et nous sommes prêts pour cela et nous sommes prêts pour légiférer. Donc nous, on attend que la CENI fasse son travail et nous donne le nombre d'enrôlés. Nous allons faire notre travail.
Et le travail des révisions du fichier électoral se termine au mois de juin, juillet prochain. Et là, vous serez encore en vacances parlementaires, et cela veut dire, en fait, en réalité, c'est au mois de septembre que vous allez voter cette loi sur la répartition des sièges.
Pourquoi vous pouvez renvoyer seulement au mois de septembre? Une session extraordinaire existe aussi. Nous pouvons prendre une session extraordinaire spécialement pour ça, parce que nous tenons à ce que les institutions actuelles, ce sont des institutions acquises démocratiquement. Et elles ne peuvent être remplacées que d'une manière démocratique. S'il faudrait que nous puissions prendre une session extraordinaire, même d'une semaine, pour que nous puissions adopter la loi ou les lois qu'il faut à la CENI pour qu'on organise les élections, nous allons le faire. Il n'y a personne qui a peur des élections. Et nous voulons d'ailleurs qu'il y ait ces élections. Parce que tout ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, c'est ce manque d'élections. Nous avons besoin des élections et on n'a pas peur, nous allons affronter ces élections.
Honorable Kakwata, les attentes de la population sont énorme. Il y a notamment cette question qui touche à la sécurité avec tous ces foyers de tension à travers les pays. Et quel pourrait être l'apport des parlementaires dans la recherche des solutions aux problèmes sécuritaires?
Vous devez savoir que j'ai un principe que j'ai toujours dit. Dieu nous a doté d'une parole pour que nous puissions parler. Mais il n'a pas donné aux animaux pour qu'ils puissent se battre. Mais nous devons privilégier le dialogue. Et quand il y a quelque chose qui se passe, il faudrait toujours mettre l'écoute. Pour savoir quelle est la revendication, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors moi, je crois que l'approche des députés, et comme je l'ai dit, nous venons des vacances parlementaires, nous sommes allés voir nos patrons, on a parlé avec nos patrons, ils nous ont donné des doléances. Donc ceux qui revendiquent, il y a un message qu'ils font passer. Et c'est ce message-là que nous devons écouter et nous devons le mettre autour d'une table pour que nous puissions trouver la solution. Donc on a le temps maintenant là de laisser aux élus de s'entendre et que les élus puissent maintenant exprimer ce qu'ils ont écouté de leur patron, et nous allons trouver une solution.
Actuellement, le pays est l'objet des critiques de la part des ONG de défense des droits de l'homme nationales et internationales et de certains gouvernements étrangers. Vous ne pensez pas que la diplomatie parlementaire devrait être active actuellement pour redorer, n'est-ce pas, l'image de ces pays ternis par, tout, par les rapports, n'est-ce pas, produits par ces ONG?
Quoi qu'on fasse, nous serons toujours critiqués. Il faut toujours se dire ça dans la tête. Quoi qu'on fasse, nous serons toujours critiqués. Est-ce que nous devons gérer un pays sur base parce que nous sommes critiqués ou nous devons connaître l'essentiel? Et pour moi, l'essentiel, c'est la population, c'est l'interne, le panier de la ménagère, le social. Quoi qu'on fasse, les critiques seront toujours là, présents, et nous allons les affronter. Donc, la diplomatie parlementaire, oui, elle vaut, mais pour l'instant, c'est la situation de la population qui nous intéresse plus, le social, le panier de la ménagère. Et la sécurité, parce que ceux-là qui meurent ne sont pas moins congolais que moi. Ils sont aussi congolais au même titre que moi. La Constitution consacre à ce que nous puissions sécuriser tout un Congolais. Donc moi, je n'ai pas besoin d'abord de connaître ces problèmes de critique, mais ce qui m'importe plus, c'est ce Congolais qui est en train de mourir. C'est ce Congolais qui a faim maintenant. Comment faire pour qu'il puisse se dire il n'a pas une autre patrie que la RDC et qu'il se dise qu'il fait beau vivre dans ce pays.
Honorable Batmona, vous pensez que les élus du peuple ont cette volonté aujourd'hui d'apporter des solutions adéquates aux problèmes qui touchent actuellement la population?
Vous savez, la population, il avait la possibilité de pouvoir attendre immensément ce que l'ensemble des institutions du pays devaient leur apporter. Regardez autour de la ville de Kinshasa comment les routes sont abîmées. Alors qu'on a chanté haut et fort la révolution de la modernité.
Et on dit que ça, c'est la faute aussi à vous, parlementaires, élus du peuple, vous qui ne sanctionnez pas.
Évidemment, ils n'ont pas tort. Mais qui doit sanctionner? Si aujourd'hui l'Assemblée nationale, il a plus de 420 députés qui sont de la majorité, qui doit sanctionner? Pendant que la minorité n'est que autour de 80 sur les 500.
Et cette minorité, donc, quelles sont les initiatives qu'elle a prises pour sanctionner les...
Depuis 2011, il y a eu beaucoup d'initiatives. Le président l'a rappelé, qu'il y a eu à peu près plus de 500 initiatives qui ont été prises, mais lesquelles ont abouti. D'abord, les rapports de contrôle parlementaire ne sont pas rendus publics. Ou du moins, s'ils sont rendus publics, mais c'est pour qu'ils soient classés dans les placards. Par deux fois, il y a eu tentative de sanctionner les ministres au niveau de nos amis. Tout ce qui est blanc devient noir, tout ce qui est noir devient blanc. Donc j'ai dit, je crois que c'est de cette manière-là que la législature actuelle au niveau de la majorité, c'est de cette manière-là qu'ils sont en train de conduire les travaux de l'Assemblée nationale. Donc on ne pouvait pas s'attendre à une merveille quelconque par rapport aux sanctions que devaient subir soit les ministres, soit les PDG des entreprises publiques. Donc ils sont couverts par leur majorité.
Oui, honorable Batmona, si l'accord de la Saint-Sylvestre est mis en œuvre, le rassemblement aura les gouvernements, et donc le rassemblement va faire partie de la nouvelle majorité parlementaire. Est-ce que vous n'allez pas vous comporter comme vos amis de la majorité, dont vous fustigez les comportements, un comportement qui consiste à être complaisant, n'est-ce pas, vis-à-vis des ministres et des mandataires publics?
Monsieur le journaliste, par rapport à l'accord de Saint-Sylvestre, il faudra d'abord faire un pas en arrière. Deux mois après, cet accord est toujours flottant. Mais la responsabilité, certainement, repose sur qui? Quand les textes sont bien clairs et l'interprétation donne des commentaires totalement différents, totalement divergents, alors que la lettre, aussi que l'esprit, avait mis tout le monde ensemble, unanime. Mais je me suis toujours dit que si la majorité avait mis des réserves pour signer l'accord, il avait des raisons. Les raisons sont les suivantes. Donc ils n'arriveront jamais à appliquer l'accord, à moins qu'il s'agisse d'un miracle quelconque.
Et si jamais cet accord est appliqué et que vous faites partie de la nouvelle majorité présidentielle, vous n'allez pas vous comporter comme vos amis de la majorité aujourd'hui?
Monsieur le journaliste, je crois que parmi nous, il y a ceux qui ont géré. Et au niveau des rassemblements, les expertises ne manquent pas, certainement. Nous allons faire en sorte que le peuple puisse se retrouver, que les tendances soient inversées. Aujourd'hui, le peuple ne consomme que les ménifrétins, alors que nos amis du pouvoir, ils sont en train de jubiler. Donc nous allons faire la différence entre la gestion qui sera engagée par le rassemblement et la gestion que nous avons vécue avec la majorité.
Merci, professeur Alphonse Mahindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani. Et comment vous analysez cette session qui intervient dans un contexte de crise politique, économique, ajoutée à cela l'insécurité qui affecte beaucoup de localités à travers le pays?
Merci beaucoup. Alors, je pense que si l'on veut comprendre le travail qui est fait dans cette session parlementaire, il faut se poser une question fondamentale. C'est la question de savoir quelle peut être l'activité parlementaire en période d'affaires courantes, parce qu'on est là dans une situation d'affaires courantes. Si vous voulez, on va cacher ce que c'est que affaires courantes. Mais est-ce que l'activité parlementaire peut être normale ou pas du tout en période d'affaires courantes, comme c'est le cas en ce moment où on a toutes les institutions pratiquement, il s'agit du président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, qui sont hors mandat, donc ils sont logiquement en train d'expliquer les affaires courantes. Alors, par rapport au travail parlementaire, il y a lieu d'examiner ça sur trois points. D'abord, en ce qui concerne les affaires parlementaires autonomes, ensuite, en ce qui concerne la fonction législative elle-même et la fonction de contrôle. Ça sont les deux fonctions majeures de l'Assemblée, c'est-à-dire légiférer et contrôler le gouvernement. Alors, quels sont les impacts quand on est dans la période d'affaires courantes ces trois fonctions-là, ces trois compétences, si vous voulez, d'une Assemblée ou d'un Sénat? Alors, en ce qui concerne les compétences autonomes, il va de soi que la période des affaires courantes n'a aucun impact sur les compétences d'une Assemblée par rapport au droit d'exercer son bon fonctionnement de manière autonome, notamment en ce qui concerne les attributions concernant l'organisation interne de l'Assemblée, nomination du bureau, composition des commissions, ce genre de choses, ou vérification des pouvoirs des membres, levée de l'immunité, ce genre de questions. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, donc toute la doctrine, si vous voulez, elle est unanime pour dire que ça ne peut pas impacter, qu'on soit en période d'affaires courantes ou pas. Alors, maintenant, quand on va plus loin, en s'agissant de la fonction législative, alors là, il y a des préoccupations qui peuvent être évoquées. Et parfois, les parlementaires elles-mêmes, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, l'un de mes co-débatteurs évoquait ça, qu'il est un peu gêné de pouvoir siéger dans l'Assemblée, parce que voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'attitude conservatrice, qui fait que les parlementaires, les parlements, si vous voulez, les assemblées, vont s'abstenir d'exercer leurs compétences, hein, par crainte de compliquer, ce qui est le cas aujourd'hui, les négociations politiques qui devraient mener à la résolution d'une crise ou quoi. Parce que si vous avez cette situation-là, vous prenez des décisions en tant qu'Assemblée, tout ça, ça peut influer et négativement ou favorablement sur les processus de négociation qui est en cours. Et donc, ça, les gens peuvent rechigner ça. Mais lorsque on a par contre une crise qui est trop longue, qui a trop traîné avec des impasses, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, les désagréments et les désavantages qui sont liés à l'inactivité d'un Parlement peuvent se faire sentir et devenir très très difficile à supporter. Et donc dans ce cas-là, voyez-vous, il est nécessaire que les parlementaires ne restent pas inactifs, qu'ils passent à l'action, donc qu'ils agissent, qu'ils interviennent. Et je pense que c'est le sens de la convocation de cette session qui a été évoquée. Alors maintenant, il y a une espèce de, je disais qu'il y a une espèce de consensus au niveau de l'opinion. Certains d'entre vous connaissent peut-être Patricia Popelier. Elle disait qu'elle a écrit en 2008. Hein, elle disait que les parlements peut, si vous voulez, la procédure législative parlementaire peut se dérouler tout à fait normalement en cas de d'affaires courantes. Et donc on peut déposer des projets, des propositions de loi. Le gouvernement peut proposer des projets de loi. Il peut y avoir des examens. Tout c'est fait. Le travail c'est fait de manière normale. Sauf, il y a une réserve dans la pratique. Voyez-vous, dans la pratique, on se dit, il faut considérer uniquement les projets de loi qui sont urgents. Alors, les projets de loi qui sont urgents, c'est quoi? Évidemment, l'urgence ici, ça peut être dû aussi simplement à la longueur de la crise ou de la période de la affaire courante. Vous voyez, par exemple, si vous prenez le cas du Sénat, ça fait quand même depuis 2012 que le Sénat est hors mandat et on n'a pas pu organiser des élections, tout ça. Et donc, toutes les affaires deviennent alors dans ce cas urgentes, il faut les régler. Alors, troisième point, si vous voulez, sur lequel les affaires courantes peuvent impacter le fonctionnement d'une assemblée, c'est au niveau de la fonction de contrôle. Alors, à ce niveau-là, vous, rien n'interdit, si vous voulez, selon la doctrine, rien n'interdit au Parlement d'exercer sa fonction de contrôle en cas de gestion d'affaires courantes.
Merci.
Vous, pourquoi ? Oui.
Merci, professeur. Je vais vous redonner la parole. Honorable Laurent Batmona, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu Sud Kivu.
Je suis Franklin Matumaini. Je vous appelle depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Maintenant que toutes les institutions sont devenues illégitimes, nous attendons voir les honorables députés qui sont respectueux de la Constitution et de la volonté du peuple refuser de siéger, car ce sont certains d'entre eux qui dénonçaient l'arrêt de la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70. Et donc, pour rester sincère et cohérent avec eux-mêmes, et au nom de l'éthique politique, je crois qu'ils ne vont pas siéger, car siéger pour eux signifie que c'est de la mauvaise foi qu'ils dénonçaient l'arrêt de la Cour, car au moins le chef de l'État, en plus de la Constitution, est également couvert par cet arrêt. Mais à part la Constitution, les parlementaires sont illégitimes et d'une part illégaux. En tout cas, nous attendons voir les parlementaires légalistes, car la Cour ne remplace pas la Constitution.
Oui, honorable Laurent Batmona.
Oui, il n'a pas tort de dire que les députés avaient, comment dirais-je, un ras-le-bol par rapport à l'arrêt constitutionnel qui était pris à l'époque. Nous sommes unanimes par rapport à cette version. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y va de notre intérêt de pouvoir siéger parce que nous devons voter les lois essentielles qui doivent accompagner les procès électoraux. Donc, je disais que je ne suis pas fier, mais je suis obligé de prendre le pas à cette session parce qu'il y a des grandes questions majeures qui seront débattues, notamment la répartition des sièges, notamment les rapports de la CENI qui sera exposé, que nous allons décortiquer et pour lesquels nous devons prendre certaines options pour le maintien ou plutôt, comment dirais-je, de pouvoir faire en sorte qu'il puisse être ou donner un contrôle sur la gestion financière ainsi que sur le patrimoine de la CENI. Et surtout qu'aujourd'hui, nous fonctionnons avec un douzième du budget. Donc le budget sera présenté, nous sommes obligés d'y prendre part pour regarder quels seraient les montants qui seront consignés par rapport au processus électoral. Voilà pourquoi nous sommes obligés de prendre part à cette session et d'une manière très active.
Vous venez de suivre le professeur Alphonse Maindo qui a relevé, n'est-ce pas, certains impacts négatifs dus au fait que vous siégez pendant les affaires courantes. Vous ne pensez pas que une des façons, n'est-ce pas, d'éviter ces impacts négatifs, c'est de mettre urgemment en œuvre, n'est-ce pas, l'accord de la Saint-Sylvestre qui confère aux parlementaires une certaine légitimité.
Mais pourquoi nous sommes restés longtemps au niveau de la Cinco si ce n'est pas de chercher à faire appliquer l'accord? Donc, à mon avis, aussi bien du camp de la majorité que du camp des rassemblements, nous sommes dans l'obligation de pouvoir faire appliquer l'accord et de pouvoir adopter les arrangements particuliers qui permettront que la population puisse au moins trouver de l'espoir, pourquoi pas de l'espérance. Regardez aujourd'hui, les blocages politiques ont engendré beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, la situation économique, la situation financière du pays semble pratiquement aller vers un gouffre. Et si nous ne faisons pas attention, nous aurons la population derrière notre dos. Et ça sera à ce moment-là un point de non-retour. Donc nous sommes obligés de chercher à ce que les évêques puissent se mettre activement au travail pour que les délégués qui nous représentent au niveau des Cinco puissent faire en sorte que l'accord et l'arrangement particulier soit appliqué.
Honorable Batmona, et si à l'issue de cette session de mars, vous rendez compte que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est toujours pas mis en œuvre, et qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à vous considérer comme député national?
Monsieur le journaliste, nous parlons de qui? Nous parlons du peuple. Donc c'est le peuple qui aura à s'exprimer. Ça ne sera plus les députés, ça sera le peuple qui se prendra en charge.
Honorable Kakwata, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Isiro.
Donc, en analysant la session parlementaire du mois de mars, qui est d'ailleurs hors mandat de nos députés nationaux, bien que cette session s'ouvre dans un contexte de crise politique, mais aussi dans une crise de taux élevé, ajoute à cela la soif des peuples congolais pour la tenue des élections et l'ordonnance politique. Ça semble dire que notre député resterait insensible à tous ces problèmes. Il mettrait en priorité l'adoption du budget pour leurs émoluments. D'autant plus que, dirait leur mandat, rien n'a marché. Pas de contrôle efficace dans le trésor public de l'État, aucun ministre ou mandataire public sanctionné, ni le texte des lois pour permettre à la CENI d'organiser les élections. Faut-il espérer aujourd'hui que nos députés nationaux vont corriger le plus vite possible le pire pour mériter encore la confiance de la population?
Honorable Kakwata.
Oui, merci beaucoup. Ce que vous devez savoir, que la priorité aujourd'hui pour ce budget, je le dis.
Pour cette session.
Pour cette session, mais à ce qui concerne l'adoption du budget, la priorité est sur deux volets. Un, c'est les élections. Donc la ligne de crédit pour la CENI, afin que nous puissions avoir des élections. Deux, le social. Alors, nous pouvons rassurer notre patron qui vient de parler tout à l'heure que nous allons nous y mettre de sorte que nous puissions dégager un budget qui permettra à ce que les élections puissent avoir lieu dans notre pays et que le social de la population puisse aussi se retrouver, le panier de la ménagère. C'est ce qui est la priorité. Parce que s'ils nous ont élus, ils nous ont élus pour cela, venir défendre leurs intérêts et non pas nos propres intérêts.
Oui, j'ai posé la même question à l'honorable Batumona. Et si, à la fin de cette session de mars, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est toujours pas appliqué, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Dire que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est toujours pas appliqué, moi je ne suis pas d'accord. Parce que moi je vous dirais que l'accord est appliqué. Peut-être ce sont les autres volets de l'accord qui ne sont pas encore appliqués, mais l'accord est déjà mis en application. Pourquoi je le dis? L'article 103 de la Constitution couvre cela. Et l'article 103 dit bien qu'une assemblée part à l'installation d'une nouvelle. Et la nouvelle, il faudrait qu'il y ait des élections. Les élections n'ont pas eu lieu. L'accord de Saint-Sylvestre a signé et ils ont accepté à ce qu'on puisse continuer jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Donc c'est déjà l'application. Donc nous sommes déjà dans l'application. On a reconnu le président de la République. On a reconnu les institutions actuelles. Donc nous sommes déjà dans... Je peux même dire que nous sommes à 50% ou 25% de l'application de l'accord, parce qu'il ne faudrait pas dire que l'accord ce n'est que quand il y aura nomination d'un premier ministre. Non, lui aussi fait partie des préalables de cet accord. Pour moi, je vous dis que l'accord est déjà en application, mais il ne reste que celui qu'on attend du premier ministre qui doit venir, de sorte que nous puissions amener le pays vers les élections. Mais si vous vous dites que l'accord n'est pas appliqué, moi je vous dirai non, l'accord est en application. Aussitôt signé et aussitôt que la majorité a levé la mention sous réserve, l'accord est en application. Et nous sommes sur cela et nous ne sommes pas écartés de la Constitution en partant de l'article 103 de la Constitution qui nous confère la continuité jusqu'à ce qu'il y ait installation d'une nouvelle assemblée.
Et quel pourrait être l'apport de vous, députés nationaux, n'est-ce pas, pour redynamiser les négociations au sujet de l'arrangement particulier?
Je crois que vous avez suivi le discours du président de l'Assemblée ce jour et j'ai aimé à la clôture. Il a dit au nom de 500 députés, nous demandons à la CENCO de reprendre et pas plus tard que la clôture, la fin du discours, on a eu un message que la CENCO reprenait demain. Donc déjà il y a l'apport des députés parce que le président de l'Assemblée a parlé au nom de 500 députés, donc c'était notre vœu, notre desiderata de reprendre ces pourparlers et enfin de parachever de sorte que la population puisse se retrouver.
Professeur Maïno, il y a une question qui vous adressait, elle vient de Kindu.
C'est Augustin Katara Wangoi depuis la ville de Kindu au Maniema. Les deux chambres doivent songer à la crise qui traverse le pays suite à la non-organisation des élections. Les points prioritaires pour cette session parlementaire, c'est l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et la nomination du Premier ministre au sein du Rassemblement pour calmer les tensions sont visibles à travers les pays. N'oubliez pas que c'est grâce à cet accord qu'on a légitimé les institutions politiques à mandat électif. Si le blocage perdure, le peuple reprendra la rue, selon la Constitution à son article 64.
Professeur Alphonse Maïndo.
Oui, alors oui, oui, je comprends tout à fait la question. Bon, alors ceci dit, on est dans une situation de, en réalité, cette session-ci du mois de mars, c'est une session qui est essentiellement budgétaire. C'est pour voter la loi des finances et permettre doter les pays d'un budget qui puisse leur permettre de fonctionner, tout ça. Et maintenant qu'on a une situation de crise, eh bien, il faut qu'on prenne ça à bras-le-corps. Parce que si on ne prend pas ça à bras-le-corps, on va avoir des gros soucis, puisque l'on sait très bien c'est qu'on a, on est passé pas très loin d'une l'hécatombe ou d'une crise majeure, simplement une crise politique très ouverte et voire violente à la fin de l'année dernière. Et grâce à cet accord, on a pu échapper à ça. Alors maintenant, je peux comprendre l'exaspération de notre peuple, parce que chaque jour, et quand on voit l'inflation monétaire qui atteint des situations insupportables pour les gens qui perdent le pouvoir d'achat tous les jours, et quand on voit aussi des zones d'insécurité qui se généralisent à travers le pays, il y a de quoi énerver les communs des citoyens pour pousser à la révolte. Et donc je pense que les députés doivent saisir cette opportunité qu'il y a une session parlementaire pour rappeler, si vous voulez, les uns les autres à prendre leurs responsabilités, que eux-mêmes en tant que parlementaires donnent des instructions plus claires, présentent une position plus ferme. Par exemple, s'il y a des gens qui font des blocages, ou le gouvernement, l'Assemblée peut décider de démettre le gouvernement qui est en place pour libérer l'espace, de manière à ce que l'on puisse avoir un premier ministre du Rassemblement qui vienne prendre la place. Donc, je pense que les parlementaires ont tout intérêt, surtout que eux, ils dépendent des électeurs. Et s'ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas les électeurs en ce moment, s'il y a des élections d'ici la fin de cette année ou en début de l'année prochaine, ils pourraient être sanctionnés très lourdement par ça. Et donc, ils doivent pouvoir écouter ce que la population dit ici. Parce qu'il y a des forts risques quand on voit, quand on sait qu'il y a des groupes qui se réveillent, des gens qu'on croyait complètement défaits comme les M23 et d'autres qui reviennent. Ça montre bien que les gens veulent profiter justement de cette situation, qui est donc une situation dramatique, pour revenir sur la scène politique.
Bonsoir. Professeur, peut-on dire aujourd'hui qu'il se pose déjà un problème des droits du fait que l'accord qui doit conférer une certaine légitimité aux parlementaires n'est pas toujours appliqué?
Alors, oui, évidemment, lorsque le problème de légitimité, ça c'est une autre question. Le problème de la légalité, il ne se pose aucune question de légalité par rapport aux parlementaires. La légitimité, c'est quoi? La légitimité, c'est la confiance que les citoyens ont en leurs élus, en leurs dirigeants. Maintenant, comment on mesure cette confiance que les gens ont dans leurs dirigeants, dans les actes qu'ils posent? C'est par rapport aux acceptations. Mais quand on écoute les interventions des uns et des autres, on a l'impression que cette légitimité, elle est fortement entamée. Alors, mais si elle est fortement entamée, eh bien, il faut trouver des solutions à ça. Alors, ce n'est pas cet accord qui va donner cette légitimité-là. Ce qui pourrait vraiment, même si on a pris cet accord, la légitimité ne reviendra pas comme ça, parce que la confiance, une fois qu'elle a été rompue, pour que se rétablisse, c'est tout un processus. Et qu'est-ce qui rétablirait la confiance entre un peuple et ses dirigeants? C'est des actions gouvernementales. C'est qu'on puisse redonner aux gens de quoi manger, de quoi se faire soigner, que les fonctionnaires soient bien payés, que la sécurité soit garantie, que les routes soient entretenues, etc. C'est ça qui va recréer une véritable, si vous voulez, question de confiance. En dehors des élections qui vont être organisées, bien sûr, qui vont redonner, si vous voulez, des élus qui soient légitimes. Mais avant ça, les gens qui sont là pour recueillir doivent poser des actions qui vont dans le sens de rencontrer les préoccupations quotidiennes des gens pour la survie.
Professeur, vous êtes politologue. Si à l'issue de cette session, cet accord n'est toujours pas mis en œuvre, et politiquement, il ne va pas se poser de problèmes?
Alors, si cet accord n'est pas appliqué à l'issue de cette session parlementaire, eh bien, nous risquons d'avoir de gros problèmes. Nous risquons d'avoir de gros problèmes parce que, premièrement, il y aura une espèce d'exaspération. Le peuple va considérer que ses élus ne l'écoutent pas, ses élus ne se préoccupent pas de ses problèmes. Et donc, le peuple peut se tenter, ou du moins, le peuple peut se tenter de suivre les pêcheurs en eau trouble qui pourraient les appeler ou de suivre la voie de la violence, de ceux qui voudraient renverser tout casser, etc. Et donc, ça pourrait être une tentation. Mais il faudrait donc qu'il y ait cette prise de conscience par rapport aux menaces réelles qui posent sur, qui pèsent sur notre régime, sur notre pays, si ces accords ne sont pas appliqués. Alors, il y a aussi une autre dimension par rapport à ça, c'est que si on n'a pas cet accord appliqué à la fin de session parlementaire, il y a de forts risques que les élections ne puissent pas tenir d'ici la fin de l'année.
Merci.
Puisque il y a un certain nombre de questions qui doivent être réglées maintenant. Voyez-vous ?
Merci, professeur honorable Laurent Batoumouna. Le Parlement actuel a-t-il assez de marge de manœuvre, n'est-ce pas, pour aider les pays à sortir de cette crise multiforme ?
Je crois qu'à mon avis, notre président de l'Assemblée nationale, c'est une personnalité influente au sein de la majorité. Il est parmi les principaux négociateurs. Il venait d'annoncer qu'il y aura investi le gouvernement. Et certainement, étant donné qu'il est dans le cercle du pouvoir, il va pouvoir honorer sa parole, que nous aurons à investir un gouvernement. Et pour que le président de la République ne puisse plus continuer à s'éloigner du peuple, je crois qu'il a intérêt de pouvoir nommer ce premier ministre que nous attendons, dont il connaît déjà les noms. Il a intérêt de pouvoir faire légitimer notre président de rassemblement que nous venons de choisir.
Vous pensez que tout dépend du chef de l'État, dès lors qu'on sait qu'au rassemblement, il y a des divergences de vues ?
Mais provoqué par qui ? Ces divergences de vues, certainement, le pouvoir est en train d'imaginer, à mon avis, parce que les rassemblements étaient calmes jusqu'à un certain niveau. Il a fallu que le président ait inscrit qu'il puisse partir pour que le problème commence à être soulevé. Et nous pensons que les problèmes qui se posent, nous, les rassemblements, ça peut être traité. Et nous allons laver nos linges sales en famille.
Vous ne pensez pas qu'il faut commencer d'abord par laver ces linges sales en famille avant de demander au chef de l'État de nommer un premier ministre, de mettre en œuvre, n'est-ce pas, cet accord de la Saint-Sylvestre ?
Non, non, ça c'est une question qui sera réglée par nous-mêmes. Je crois que les évêques ont raison de pouvoir convoquer les négociations directes parce que ce problème-là sera résolu par nous-mêmes. Nous avons, les présidents de la République nous avaient demandé qu'on puisse désigner un président. Tous les deux, ils sont là. Donc je crois que pour qu'il faut respecter sa parole, son engagement, il a intérêt de pouvoir faire peser de son poids par rapport à sa famille politique pour que l'accord et l'arrangement parce qu'il devienne d'application. Aujourd'hui, il est le seul à être légitimé. Vous trouvez ça correct ? Que les autres sont en train de patienter, d'attendre, la population est en train de souffrir, la population pratiquement perd de plus en plus d'espoir, les prix s'emballent, les routes sont défoncées.
Et en conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
En conclusion, le président a intérêt à ce que l'accord soit appliqué, d'autant plus que c'est lui qui a pris la bonne volonté de pouvoir convoquer la CENCO pour que nous puissions siéger par rapport à ça. Donc nous pensons que cet accord puisse être appliqué. D'une manière rapide, nous aurons résolu beaucoup de problèmes.
Merci, honorable Kakwata. La balle est dans les camps, n'est-ce pas, de la majorité pour décanter la situation.
Vous devez savoir que la balle n'est pas dans le camp de la majorité. Et le président de la République attend. La situation, c'est encore au niveau du rassemblement, au niveau de l'opposition. Parce que c'est eux qui doivent se remettre en ordre. C'est pour cela qu'au niveau du MRL, à un certain moment, quand nous avons constaté qu'il y a eu une confusion et une cacophonie, nous avons lancé un message et une campagne que nous avons lancée en disant qui fait quoi. Et cette campagne-là, je crois qu'elle a son pesant d'or ce jour en demandant à l'opposition de se remettre en rail. Parce que nul n'a présenté les noms tels que ça a été demandé auprès du président de la République, de sorte que nous puissions nommer un premier ministre.
En conclusion ?
Et en conclusion, je demande à l'opposition qui fait quoi ? Retourner tel qu'il se doit et présenter tel qu'on a présenté le président du comité de suivi, qu'ils aillent maintenant présenter la liste qu'il se doit. Et nous, à la majorité, on n'a peur de rien. On nommera un premier ministre et on ira de l'avant. La population est en train de souffrir. Et ils doivent être conscients de cela.
Professeur Maïndo, votre conclusion ?
Alors, ma conclusion, c'est que là, on a une, avec cette session, on a une opportunité unique pour les souverains secondaires et dérivés, donc qui sont les parlementaires, de pouvoir montrer qu'ils sont en identité, ils sont, si vous voulez, en communion, en cohésion avec les souverains primaires qu'est le peuple, de les rassurer en investissant un gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Serra qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue Congolais, Alain Rongeberry, Franklin Luchaka, sous la supervision de Pelle Kipelamondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi.